Alors, je vous rappelle que l'ouverture des portes est à 10h au Palais des Congrès, au Salon de l'Auto. Et j'aime vraiment la section où on nous a installés. À partir de 10h, vous pourrez venir passer, entre autres, la dernière heure avec nous. J'ai dit j'aime vraiment la section parce que nous sommes à la fois extrêmement branchés, c'est le cas de le dire, dans la section électrique. Et je disais à mes camarades que moi, ce qui m'attire, c'est le bout du couloir. Ici, ce sont les belles d'autrefois. Je disais à Philippe Lagu et Benoît Charrette que j'étais étonné de voir une Ford Model T 1912.
Oui.
Prix original, $390. Vous faites la conversion en dollars d'aujourd'hui. Et la conclusion, messieurs, c'est qu'en 1912, c'était d'une certaine façon abordable. Je ne dis pas que c'était pas cher.
Ben, en fait, c'était la
mais
voiture.
Mais c'était abordable.
C'était la voiture la moins chère sur le marché à l'époque. Henry Ford, avec la chaîne de montage, a été capable de passer d'un temps de production de 3 heures à 40 secondes en à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans maximum.
Est-ce que Henry Ford voulait aussi, parce qu'il y avait une certaine vision sociale, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense du personnage, il voulait aussi que chacun de ses employés puisse acheter une Model T, d'où le prix relativement abordable. Et évidemment, sa célèbre phrase, vous pouvez l'avoir de n'importe quelle couleur en autant que c'est noir.
Exactement. Et évidemment, celle que j'ai devant moi, et Thérèse aussi peut l'avoir, elle est noire, mais c'est magnifique. Les roues avec les rayons qui sont orange. Ben, vous vous rendez compte? Et elle est décapotable.
À une certaine époque, le Model T représentait 50% de tous les véhicules vendus dans le monde.
Oui, mais il n'y avait pas beaucoup de constructeurs.
Il n'y avait pas beaucoup de constructeurs, mais c'est la voiture qui a créé les banlieues, littéralement. Parce qu'à partir de ce moment-là, les gens ont pu se payer une voiture et rester ailleurs qu'en ville parce qu'ils pouvaient se déplacer. On a développé les autoroutes, on a développé tout ce qui est banlieue, restaurant sur le bord des routes, motel sur le bord des routes, ciné-parc, ça s'est tout fait dans ces années-là. Et on a connu la société moderne qu'on a aujourd'hui, entre autres grâce au Model T.
En fait, il y avait beaucoup de constructeurs à l'époque, mais des petits constructeurs artisanaux qui ouvraient et fermaient à toutes les semaines et à tous les mois, mais il y en avait beaucoup. Sauf que quand Ford est arrivé, et Benoît l'a très, très bien expliqué, quand tu pars de 3 heures pour assembler une voiture à 40 secondes, là, tu viens de réécrire complètement le livre. Et là, ils ont littéralement tué les petits constructeurs qui ne pouvaient jamais suivre une cadence comme ça et qui, donc, étaient obligés de vendre une voiture plus chère.
Est-ce que M. Elon Musk fait la même chose et chaque employé devrait posséder une Tesla et arriver au travail, à l'usine, avec sa Tesla?
Non, je pense pas qu'il y ait les mêmes
autre temps,
les mêmes
autre mœurs.
Oui, effectivement. Mais Elon Musk a quand même, et on peut attribuer aussi toutes sortes de qualités, de défauts à Elon Musk, mais Elon Musk a été très transparent. Tous ses brevets sont publics. Tous les gens qui veulent l'utiliser peuvent l'utiliser. Et lui a cru en l'électricité avant n'importe qui. Il y a personne, il y a 11 ans, qui osait même envisager vendre un véhicule 100% électrique. Et lui a devancé, à mon avis, puis on ne le saura jamais, mais il a devancé au moins de 10 ans l'apparition d'un véhicule électrique sur la route.
Dans 50 ans, on dira qu'il y a eu un avant Tesla et un après Tesla. On peut déjà le dire, d'ailleurs.
Oh, le problème, Philippe Lagu, c'est qu'on n'arrête pas de dire dans 50 ans, alors qu'on a l'impression que, justement, l'électrique fait partie d'une certaine façon.
Ben là, je parlais d'une perspective historique. Là.
Oui, ça fait partie du parc automobile mondial. Maintenant, c'est pas quelque chose de phénoménal que de voir une voiture électrique.
Ah non, pas du tout.
Regarde François Bessette, quand il est en panne sur l'autoroute, là, et puis qu'il a oublié de recharger, on dit « Hey, c'est François Bessette d'RDS, regarde, il est dans une voiture électrique. »
Si Bessette en a une.
Hey, si Bessette en a une, là. Hein?
Mais, tu sais, toute chose étant relative.
Non, ce que je veux dire...
Au Québec, c'est pas exceptionnel.
Oui, mais Philippe, on n'arrête pas de dire « Dans 50 ans, on va tout... »
Ah non.
Mais il faudrait que ça soit dans 10 ans maximum.
Il y a un chroniqueur automobile cette semaine, c'est pas toi, je pense. Il y a un chroniqueur automobile cette semaine qui est allé en Indiana.
Non, c'est pas moi.
Et qui a passé plusieurs jours là et qui nous a dit c'est la première fois que je ne vois pas aucun véhicule électrique nulle part.
Il y a quelques semaines, j'étais au Tennessee. Puis j'ai même posé la question dans un concessionnaire BMW. Avez-vous des voitures électriques? Il m'a regardé avec un grand sourire. On l'a dit.
Ah. Ben voyons donc. Ben,
mais ça,
ben,
c'est intéressant. Donc, aucun véhicule électrique en Indiana?
Non.
Il y en a un peu aux États-Unis, mais
il n'y a pas de demande.
Il n'y a pas de demande. Et pour le moment, les constructeurs fabriquent des véhicules électriques à perte. Il faut bien le dire, là. On ne fait pas d'argent avec les véhicules électriques qu'on vend en ce moment. Les constructeurs en font.
Au Québec, mais on pense que c'est un succès parce qu'on en voit régulièrement.
Oui.
Puis on est le deuxième. On est le sixième marché mondial.
Le Québec, pas le Canada. Le Québec est le sixième marché mondial.
Et c'est au Québec qui se vend le plus de voitures électriques. Au Canada, c'est 50 %. Alors, c'est sûr que nous, si on se colle le nez sur notre réalité, on dit, ben voyons donc, il s'en vend des autos électriques, c'est un succès. Non, c'est pas un succès tant que ça. Puis d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il s'en vend autant, c'est ce qui nous a beaucoup aidé aussi, ce sont les politiques du gouvernement Ford
en
Ontario qui a aboli les subventions.
Exactement. Et François Bessette va nous en parler. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi l'idée d'acheter une voiture 100% électrique?
La curiosité, premièrement. Deuxièmement, ça a l'air fou ce que je vais vous dire, mais je trouve donc que c'est une perte de temps tout le temps à aller mettre de l'essence dans une voiture. Pour moi, là, c'est une dépense nécessaire, t'as pas le choix pour aller travailler. Et j'étais curieux de voir les véhicules électriques. J'avais le goût d'avoir une voiture électrique. J'ai une voiture à essence aussi, parce que lorsque je fais des longues distances, j'ai encore une voiture à essence.
OK. Mais les subventions,
oui.
Est-ce que ça a joué pour toi?
Bien, c'est sûr que ça aide. Premièrement, une voiture électrique, c'est plus dispendieux qu'une voiture ordinaire.
Ouais.
Alors, si tu calcules, puis on m'avait expliqué que si tu t'achètes une voiture électrique, François, c'est parce que tu vas t'en servir. Si t'es juste pour aller au coin de la rue, là, ça vaut pas la peine. Prends une voiture à essence, là. Si tu fais pas beaucoup de kilométrage, prends une voiture à essence, ça vaut pas vraiment la peine. Mais si vraiment tu t'en sers régulièrement,
ouais,
là, tu vas venir à voir la différence et à sauver sur le prix de l'essence.
Mais tu viens de dire quelque chose, Cathy. Tu as dit c'est une voiture dispendieuse.
Ben c'est plus cher une auto électrique que
Non. Je parle pas à l'achat, mais il me semble qu'en entretien.
Oh non, c'est rien.
C'est bien moins cher.
C'est sur le coût, ça fait plus, ça fait peur.
Tu parles de l'acquisition.
Exactement.
Le coût d'achat.
Le coût d'achat est pour certaines
personnes. Est-ce qu'il y a une bonne valeur de revente dans l'usager?
Bon. Pour le moment, pas tellement, parce que la technologie évolue rapidement. Il faut bien comprendre que si on recule seulement il y a 5 ans, un modèle comme la Leaf avait une autonomie d'à peu près 145-150 km l'été quand il faisait beau en descendant de côte. Puis vous étiez à...
C'est pas mal ça!
C'est la génération
que j'ai testée.
Oui, oui. Et vous étiez à 85-90 l'hiver. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, à la revente, à cause de ça, parce qu'on est rendu maintenant à 400 et plus dans les modèles qui arrivent en concession. Mais, écoutez, pour les gens qui n'ont pas besoin de plus, moi, j'ai une personne, je connais, qui voyage de la rive sud vers Varennes tous les jours, qui fait à peu près 40 kilomètres pour se rendre au travail.
Aller-retour, 80
aller-retour. Cette personne-là a acheté une livre 2013 qu'elle a payé 12 500 $ Puis ça convient extrêmement bien à ses besoins parce que...
Mais elle est presque à la limite de l'autonomie de la 2013.
La personne peut charger au travail.
Ah, ça
c'est un gros avantage. Ah. Voilà.
Et alors, toi, François, en tant que consommateur, en tant que propriétaire d'un véhicule 100% électrique, est-ce que tu trouves que tu es bien servi quand vient le moment de recharger?
Oh oui, absolument. Moi, j'ai une borne à la maison. Donc,
et là aussi, tu as eu une subvention.
Une subvention, exactement.
Ah. Donc, tu viens ici au centre-ville...
Oui, c'est...
Tu charges ou tu charges pas?
Non, absolument pas. J'ai pas besoin. J'ai 400 kilomètres.
Ouais.
Je viens travailler, puis... c'est ça, il n'y a pas vraiment de problème. Là. Puis, honnêtement, la voiture électrique, c'est surtout mon épouse qui s'en sert. Alors, elle, pour aller travailler, revenir, c'est à peu près 80-85 kilomètres.
Ah, mais toi, t'es correct maintenant. Oui. Mais moi, je trouvais ça, parce que la Leaf première génération que j'ai testée, j'étais à ça à peu près 145, annoncé.
Oui.
Attends une minute, annoncé. Parce que j'ai baissé la fenêtre.
Annoncé, puis pas l'hiver.
On tombait à 112.
La chaufferette, tu perdais 32 kilomètres.
Incroyable.
Ouais. En mettant la chaufferette, je l'avais essayé, puis j'avais regardé mes chiffres, ça va tomber de 32
kilomètres. Et tu vois, j'avais 80 kilomètres aller-retour à l'époque où je demeurais sur la Rive-Nord. Et, Et je te jure, et Catherine Huet, qui est notre patronne, la bosse, je covoiturais avec elle, puis on retenait notre souffle, parce que, mais 80 kilomètres sur une autonomie complète de 145, non assurée.
Oui, il y avait ce qu'on appelle le syndrome de la pelle morte.
Mais tu sais une chose, vous devez connaître un certain Jacques Duval.
Oui.
Jacques est tombé en panne.
Vaguement.
Oui, avec la livre.
Avec la livre.
Oui, puis il était pas de bonne humeur.
Il était pas de bonne humeur.
Il n'est jamais de bonne humeur.
Non, mais... Bonjour, Monsieur Duval. Il est bon. C'est Philippe qui vient t'embarquer, là.
Oh, j'assume.
Nous allons faire une courte pause, Madame Parisien. On reçoit pas mal de commentaires, quoi.
Oui,
on parce que je vous vois sur le texto.
Mais non, mais il y a des gens qui... Écoute, c'est drôle parce que il y a des gens qui... Quelqu'un qui dit, je possède une Leaf SV 2018 40 kW kilowatt, c'est ça? À moins 20 degrés, je perds facilement 40 % d'autonomie.
Oui,
absolument, c'est ça.
Oui. On disait tantôt, parlait d'autonomie.
Ben,
l'hiver, 30 à 40 % c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Le froid, évidemment, il y a des systèmes de charge qui permettent de préchauffer le véhicule. Ça vous évite de perdre trop d'autonomie parce qu'évidemment, un matin comme aujourd'hui, à moins 14, moins 15, où la voiture est gelée, là, mais vraiment, partir tout ça et réchauffer non seulement dans le moteur, mais tout l'habitacle, vous consommez beaucoup d'énergie.
Le siège chauffant te coûte cher en électricité.
Pensez-y, là, c'est comme un corps humain.
La même chose.
Quand tu sors dehors, puis il fait moins 20, moins 30.
Il faut se brancher.
Toute ta circulation sanguine, puis tout ça, ça te prend un certain temps avant que ton corps se soit ajusté. Là.
François, oui. Ça te prend combien de temps à recharger? D'abord, c'est du 240 volts.
Oui, c'est ça. Donc, si la batterie est vraiment...
Mettons à plat, là.
À plat, 8 heures.
Pas pire.
OK, t'as du 240 chez vous, du 240...
Château Frontenac.
Ah, OK, parce que l'ampérage fait qu'on recharge plus vite aussi.
OK.
Les prises de circuit électrique, c'est des 240, 32.
Avant, le temps file, et on va poursuivre évidemment avec nos invités. Bertrand Godin sera avec nous un peu plus tard, et ce sera la chronique dans un instant, Thérèse. Mais je veux lancer une consultation, parce qu'à chaque fin de semaine, on se parle tout le temps en disant « voici notre thématique ». Et l'idée que j'ai eue, et vous allez voir que ça va peut-être venir vous chercher, la seule chose, c'est qu'on peut pas vous suggérer de nous rejoindre par téléphone, parce que nous ne sommes pas en studio, mais vous pouvez le faire par texto.
Ben oui.
Des courriels.
Ou des courriels, mais 98985.
Envoyez-nous un fax.
OK. Et envoyez-nous un fax. Et voici la question, enfin, qu'on vous pose. Dans toute l'histoire, que vous soyez jeune ou vieux, des voitures que vous avez possédées, louées, que vous avez empruntées, laquelle de toutes les voitures de votre vie a été votre voiture chouchou, votre coup de cœur, votre coup de cœur? Vous savez, vous dites, ça n'a pas été ma meilleure, ça n'a pas été le meilleur prix, j'ai eu du trouble avec, mais maudit que je l'aimais. Et je vais me commettre pour vous donner un exemple.
Toi, c'est peut-être pas ton moi, aquarium?
C'est ma Pacer.
Ah oui?
J'ai eu un aquarium sur quatre roues. Si vous êtes familier avec le film Wayne's World, c'est une Pacer d'American Motors qui fabriquait la Gremlin, là où ils offraient le coffre en option, la Gremlin, vous savez?
Oui,
ça coupait la bottine.
Alors,
le même constructeur fabriquait l'aquarium et la bottine.
Alors, moi, j'ai acheté l'aquarium. J'ai eu pas mal de problèmes avec. J'ai eu deux accidents avec, sauf que c'était lourd et bas, donc c'est pas moi qui ai encaissé le pire de l'accident. Sauf que les vitres ont volé en éclats. Ce n'était que des vitres. Voyez-vous, mon coup de cœur, moi, alors, c'était ma bonne vieille Pacer.
Tu réponds bien à l'adage, Paul, que l'amour est aveugle.
L'amour? mais Benoît, on ne pouvait pas être aveugle là-dedans parce que on avait l'impression de...
En fait, oui, tu étais aveuglé parce qu'il y avait tellement
de... Votre coup de cœur. Benoît, ton coup de cœur.
Dans les voitures que j'ai possédées, parce que j'en ai essayé, les autos, là. Ma Mazda 626, deux portes que j'ai achetées quand j'étais professeur. Ça, c'est dans...
J'en ai eu une, quatre portes, moi.
Oui. Deux portes qui m'a donné toutes sortes de problèmes. J'ai eu des problèmes de suspension.
Mais une belle voiture confortable.
J'ai adoré l'expérience.
Pourquoi? C'est ça. C'est pas nécessairement une voiture qui te donne
pas de problème,
là.
Non. Mais c'est une voiture... J'étais bien dans cette voiture-là. Je me sentais...
Mazda 626, quelle année?
86.
Philippe.
Moi, j'ai eu une Subaru GL hatchback, trois portes, 1983, que j'appelais affectueusement Horace. Et mon père m'avait rapporté de Floride, vous savez ce qu'on appelle un bumper sticker, là?
Oui, oui,
un
oui,
gros
oui.
autocollant, et c'était écrit en arrière, cette voiture fait 0 à 100 km/h en 15 minutes. Et c'était...
15 minutes!
C'était une estimation prudente. Moi, je pense que c'était plus lent que ça. Mais elle était indestructible.
Subaru 1983.
GL, mais GL. Qui a rendu l'âme à cause de la carrosserie.
Ah, oui, ben ah oui, ça! C'était biodégradable.
Voilà.
Je pourrais te parler de certains modèles américains des années 70.
Ma première auto, t'as une 82 Wagon GL que j'ai aussi eue pendant plusieurs années, mais que j'ai fait réparer à cause de la rouille.
Quand j'étais tout petit, plus jeune, François? J'ai eu une Fiat 1967 décapotable, rouge.
Une
petite auto poupée. Fiat. Mais c'était génial.
Thérèse?
Moi, c'était le camion Mazda Tribute.
Ben oui, vous avez
moi, là, j'étais tellement bien là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai aimé. J'avais l'impression d'être grande, forte, plus forte que tout le monde. Je ne sais pas. Puis c'est pas, tu sais, une voiture que tu as aimée, ce n'est pas nécessairement une voiture qui ne t'a pas donné de trouble.
Non, mais c'est pas ça. C'est Benoît a eu du trouble avec sa 626.
Mais il y a plein de gens, écoute.
Moi aussi, je l'ai eu, une 626. Ça a été souvent en garage, ça. Mais
la donner les goûts
la
des
mienne
gens,
est tombée en morceaux.
Oui, alors, on revient. Dites-nous par texto, parce que c'est le meilleur moyen de nous rejoindre rapidement. Dans tout ce que vous avez conduit dans votre vie, c'est quoi votre coup de cœur? Et c'est pas nécessairement parce que ça a été une bonne voiture, c'est parce que vous l'aimiez comme Horace.